saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Son entrée au répertoire de la Comédie française ne l'a pas expédiée du côté des classiques figés dans la naphtaline par la prestigieuse institution. Au contraire, Juste la fin du monde, spectacle proposé dans la salle Richelieu en 2008, a été le signal, parmi tant d'autres, de la vivacité d'une écriture que rien ne semble pouvoir démoder. Jean-Luc Lagarce, auteur dramatique mort en 1995, dont l'œuvre tout entière est publiée aux éditions Les Solitaires Intempestifs, traverse les décennies et il séduit, c'est là le fait le plus notable, les jeunes générations qui s'emparent de son théâtre pour le plier à leurs mains et nous le faire redécouvrir. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre Lagarcien d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui s'est réinventé, son vocabulaire, sa grand-mère, bref, sa langue. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Comment on construit une histoire, comment on raconte une histoire, comment on fait du théâtre, mais comment on fait, dans le cas présent, comment on fait du théâtre, mais comment on fait un livre, comment on fait un tableau. C'est-à-dire, on a des traces, et puis qu'est-ce qu'on fait avec, voilà, comment on le raconte. Et puis, surtout, on ne raconte jamais la même chose, la même histoire, de la même manière. Ça s'appelle le point de vue.
Ne me demandez pas pourquoi je suis venue sur mon chemin de croix, la route était tordue. Ne me demandez pas comment c'est arrivé, je ne m'en souviens pas, le temps s'est arrêté. Je n'ai pas vu la nuit descendre à petits pas, et dans mon insomnie je ne comprenais pas. Je voyais de partout des étoiles qui filaient, elles m'ont mené à vous, m'en voilà désolée. Désolé, ne me demandez pas pourquoi je suis comme ça, si le Dieu qui m'a faite se moquait de moi. Ne me demandez pas comment ça s'est passé, quand j'ai perdu la tête, le temps s'est arrêté, j'ai fouillé dans le ciel.
Bonjour Alexandra Moreira da Silva.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2, traductrice en Paris 3. Paris 3, pardon. Traductrice en portugais de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce. Vous avez préfacé la réédition de « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne », texte que met en scène au vieux colombier Chloé Dabert. Et avec vous, nous allons tenter de comprendre ce phénomène que représente Jean-Luc Lagarce, dont les jeunes artistes s'emparent les uns après les autres. Chloé Dabert, Clément Hervieux-Léger, tous deux sont de la Comédie française. Julie Deliquet, la compagnie Les Possédés, menée par Rodolphe Dana, pour ne citer que quelques-uns des metteurs en scène. Tous viennent se frotter à une écriture particulièrement élaborée, travaillée, ciselée. Et tous font entendre de cette écriture des sonorités différentes. Et cela va même jusqu'au cinéma, puisqu'on a vu, il y a peu, Xavier Dolan adapter Juste la fin du monde avec dans le rôle du héros Gaspard Ulliel. Écoutons un extrait.
Quoi ? L'ancienne maison ?
Oui. Quoi ?
Bah, ils vont voir l'ancienne maison.
Ouais.
Moi, ça me dérange pas, hein. Je viens de conduire, si tu veux.
Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas ? T'es bête ou quoi ?
Mais il est pas bête, écoute. Enfin, je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être ?
Tu déconnes ?
Mais pourquoi, Louis, sérieusement ? Pourquoi tu veux retourner là-bas ? T'as oublié un truc dans ta chambre, hein ?
Non, je sais pas, comme ça. Je suis curieux de savoir... Voilà, de revoir les lieux, de voir comment ils ont évolué, comment le temps les a modifiés, malmenés.
Ah, elle est même pas en vente, hein. Je crois pas qu'on puisse la visiter. L'autre jour, je suis passée devant parce que j'avais un truc à faire dans le quartier. Elle est totalement abandonnée.
Bah, tu veux te retrouver dans cette piole de chiasse pour voir comment le ton a malmené, modifié. T'as pas un plan plus à la mort moelle d'eux pour aller faire en famille comme ça, tous ensemble, là,
Antoine?
Non, mais je dis pas ça pour...
Voilà, on entend Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, tous ces acteurs qui jouaient dans le film de Xavier Dolan. Et c'est intéressant parce que finalement, on se dit qu'aujourd'hui, tous les acteurs peuvent s'emparer de la langue de Jean-Luc Lagarce. Vous l'avez vu, ce film?
Oui,
Alexandra Moreira da Silva.
Absolument.
Moi, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez trouvé que c'était adéquat par rapport à ce que vous connaissiez de Jean-Luc Lagarce?
Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Après, adéquat, je ne sais pas si c'est un mot très juste parce que c'est du cinéma. Et le cinéma, il fait autre chose, forcément. Mais je pense pense que c'est un très beau film et surtout il y a cette idée d'un temps qui coule, d'un temps qui se prolonge et les personnages sont très typés. Plus que typés, ils sont très proches, je pense, des personnages de Jean-Luc Lagarce. Mmh. Voilà.
Alors, première question pour ouvrir cette émission, elle s'adresse évidemment à la traductrice de l'œuvre vers le portugais, ce que vous êtes, Alexandra Moreira da Silva. Est-ce que la traduction pose difficulté ou est-ce que c'est du velours que de traduire Jean-Luc Lagarce ?
La traduction pose toujours des difficultés, évidemment, toujours, que ce soit Molière ou Jean-Luc Lagarce. Après, traduire Jean-Luc Lagarce, c'est un grand bonheur. Moi, j'en ai traduit 6 textes et je l'ai découvert en 95. Donc,
l'année de sa mort.
L'année de sa mort. La première pièce que j'ai traduite, c'était justement, j'étais dans ma maison. Et c'était en 98, donc pour une mise en scène au Portugal.
Qu'est-ce que vous cherchez à traduire avant tout ? Je ne sais pas si on peut poser la question de cette manière-là. Est-ce que vous cherchez à traduire le rythme, la sonorité de l'écriture, ou est-ce qu'il y a aussi le sens qui, bien évidemment, doit être là ? Comment ça se passe pour vous quand vous traduisez ?
On ne traduit jamais une langue. On traduit ce que l'auteur fait à sa langue. On traduit ce que le texte fait à la langue. Et donc, c'est Henri Méchonic qui en parle très bien. Et c'est toujours le principe pour moi de la traduction, et surtout de la traduction au théâtre. Mmh. Après, évidemment, lorsqu'on traduit pour le théâtre, on traduit une oralité. On traduit un rythme, qui est le rythme de la parole et le rythme du corps. Et chez Jean-Luc Lagarce, il y a notamment, on pourrait dire énormément de choses, mais je pense que les textes de Jean-Luc Lagarce posent deux problèmes. Le premier, c'est qu'il s'agit à la fois d'une langue très poétique et très concrète. Le risque, c'est d'oublier le concret.
Par exemple,
pour n'être que dans le poétique. C'est un risque parce que ça peut devenir tout d'un coup très flou. Alors qu'il est dans le concret. Il est vraiment dans le concret. Par exemple, lorsque la seconde parle de la mort du frère et qu'elle dit, elle imaginait que la mort du frère l'emporterait avec lui. Toute cette partie, elle est très, très belle, très poétique. Et tout de suite après, elle va dire quelque chose d'extrêmement concret. C'est « mon corps ne m'abandonnera pas ». Et c'est tout le temps comme ça. Il est à la fois dans quelque chose d'extrêmement poétique et d'extrêmement concret. Et je pense qu'il faut garder les deux, justement.
Là, ce à quoi vous faites allusion, c'est un extrait, justement, de « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne », qu'on peut voir au Vieux Colombier, qui est donc l'histoire d'un groupe de femmes, une mère, une grand-mère, des sœurs, qui attendaient le retour du frère, fils, petit-fils, lequel frère, fils, petit-fils est revenu et est sans doute en train de mourir dans la maison. J'aime bien ce que vous dites, on traduit ce que l'auteur fait à sa langue, Alexandra Moreira da Silva. Qu'est-ce que Jean-Luc Lagarce fait à sa langue ou fait à la langue ?
Alors, Jean-Luc Lagarce, il reprend un rythme qui est quelque part très quotidien. Il le dit d'ailleurs. Il le dit, toutes ces répétitions, par exemple, répétitions, variations, ça correspond exactement à notre façon de parler, de raconter des événements, de raconter des histoires, de raconter des choses très quotidiennes même. On reprend souvent les mêmes mots, on reprend souvent la même structure syntaxique, avec des variations. Donc c'est ce qu'il fait. Après, moi ce que je pense, et là aussi c'est quelque chose de très important, je pense, pour le traducteur, c'est que ces personnages ne sont pas que dans la répétition. Ils ne sont pas que dans cette répétition-variation qui pourrait faire penser que les personnages tournent un petit peu en rond. Les personnages de Jean-Luc Lagarce avancent. Et ils font beaucoup plus que répéter, ils précisent, ils insistent pour justement pouvoir trouver le mot juste, la structure, la formule juste pour dire ce qu'ils ont à dire à l'autre. Toute la question pour moi du personnage lagarcien, ce n'est pas vraiment ne pas pouvoir dire, ne pas vouloir dire, c'est comment dire à l'autre. Comment, c'est l'altérité. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Et aussi, encore une fois, pour le traducteur, c'est quelque chose de très important.
Du luxe et de l'impuissance. Et parfois, je me sens impuissant, inutile. dans l'incapacité de tout. Restant là, ne plus pouvoir faire, faire ou dire, être aveugle et sourd et imbécile encore. Silencieux de ma propre imbécilité. Attendre et subir mon impuissance. Être démuni et devoir renoncer. Être immobile dans l'incapacité de prendre la parole, de prolonger le discours, de répondre, de dire deux ou trois choses imaginées dans la solitude et qu'on pensait essentielles. Et parfois je me sens inutile devant le monde, ce que dit la rumeur, l'arrogance omniprésente de la rumeur. Ne pas le comprendre, ne pas le comprendre ou ne pas l'admettre. L'imaginer autrement, savoir qu'on doit, qu'il est de mon devoir, se dire ces mots-là, le devoir. Savoir qu'il est de mon devoir de le dire d'une autre manière et ne cesser pourtant de buter contre ses reflets. Les gens tels qu'on les voit ou tels qu'on les imagine, ne pas savoir les montrer et ne pas même savoir les regarder, perdre leurs secrets entrevus sans jamais rien pouvoir en faire.
Je voulais vous faire entendre cet extrait, Alexandra Moreira da Silva, de Guillaume Depardieu, lisant un extrait de Du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce, parce qu'il me semble qu'il y a actuellement quelque chose qui est de l'ordre de la déterritorialisation de Jean-Luc Lagarce, que ce soit par la traduction, que ce soit par le cinéma qui s'en empare, que ce soit aussi par le type de jeu qu'on peut voir maintenant à l'œuvre sur les pièces de Jean-Luc Lagarce, et que au fond quelque chose est en train de s'ouvrir par rapport à la façon dont on joue Lagarce, dont on adresse les phrases de Lagarce, qui rompt avec une sorte d'orthodoxie qui s'était peut-être installée. On est sans doute moins dans l'allégeance à la phrase et peut-être plus dans le sentiment, l'émotion. Et au Vieux Colombier, dont j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, il y a des actrices qui se font les passeuses de cette émotion beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le cas au Portugal lorsqu'il est mis en scène ?
Justement, je me propose de vous raconter une histoire. Lorsqu'nous avons monté, j'étais dans ma maison, j'attendais que la pluie vienne en 98, donc. On l'a monté avec un metteur en scène qui s'appelle José Martins dans un petit théâtre, dans une petite ville au Portugal, du nord du Portugal. Et c'est une ville où les femmes savent ce que c'est qu'attendre, parce que c'est une ville où les hommes, les fils, les maris partaient souvent soit sur des bateaux de pêche, soit à l'étranger, travaillaient à l'étranger. Donc les femmes restaient à la maison. Et en fait, le jour de la première, il y a eu un groupe de femmes qui sont allées voir, après le spectacle, le metteur en scène, et qui lui ont dit « Nous n'avons pas tout compris ». Mais ça parle de nous. Lagarce n'était pas du tout connu au Portugal. Donc je pense que ce qu'elles nous disent là aussi, c'est que nous avons fait l'expérience du théâtre. Et cette expérience du théâtre va bien au-delà de l'exercice de la raison, de la compréhension immédiate. C'est une expérience autre, c'est une expérience du corps, c'est une expérience totale. Et je pense donc que les textes de Jean-Luc Lagarce permettent justement de faire cette expérience-là. Et toute la question de la réception de Lagarce, notamment au Portugal, elle se posait justement par rapport à une langue qui était une langue a priori poétique, et mais aussi par rapport à des thèmes qui pouvaient toucher non seulement ces femmes-là, mais aussi le public en général.
Parmi ces thèmes, d'ailleurs, il y a ce thème de la famille qui est récurrent, le thème aussi de la cohabitation entre la mort et les vivants, le thème de l'attente ou d'un temps qui semble ne pas s'écouler, qui semble être figé sur place et être immobile et qui en fait ne l'est pas tant que ça. Mais je pensais à quelque chose en vous écoutant, Alexandra Moreira da Silva, c'est que au fond vous disiez les personnages ne se répètent pas, ils insistent. Ils se répètent pour préciser. Et au fond, cette façon qu'a Jean-Luc Lagarce déguisé, d'affûter, d'affiner pour arriver à l'adéquation la plus exacte possible entre ce qu'il a dans la tête et le mot ou la phrase qui va traduire ce qui est dans sa tête, c'est aussi un pas à pas qu'il nous permet à nous, auditeurs, lecteurs, spectateurs, de faire dans la même direction. Donc on peut s'approprier tranquillement, au fond, la phrase lagarcienne, les préoccupations, les obsessions lagarciennes, lorsqu'on le voit mise en scène sur un plateau de théâtre.
Oui, tout à fait. Après, Jean-Luc Lagarce, il était de ceux qui pensaient qu'on n'invente rien. Et qu'on reprend tout, on reprend les histoires et les thèmes qu'on a toujours entendus, qu'on a toujours lus, qu'on a toujours vus. Et je pense que lorsqu'il il reprend les trois grands sujets, il le dit dans le synopsis notamment du Pays lointain, il dit qu'il va aborder trois thèmes, c'est la famille, l'amour et la guerre. Et la famille, l'amour et la guerre, ce sont les thèmes qu'on aborde dans l'histoire du théâtre, dans l'histoire de la littérature, au moins depuis les Grecs. Et donc, associé à ces grands thèmes, Jean-Luc Lagarce en développe d'autres. Comme par exemple, effectivement, le thème du départ, du retour et de l'attente. Mais le départ, c'est la famille. Le retour, c'est la famille aussi. C'est la guerre. L'attente, c'est l'attente de l'amour. Donc, tous les thèmes qu'il aborde, en fait, sont une construction à partir de ce qu'il a lu et de ce qu'il a vu. Et je pense, par exemple, lorsque j'ai lu pour la première fois son journal, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, mais c'est tellement factuel. Et là, quand je le relis, et quand je l'ai relu notamment pour écrire la préface, j'ai complètement changé d'avis. Parce qu'en fait, on a toute l'histoire, tout le projet dramaturgique et théâtral de Jean-Luc Lagarce dans son journal.
Ce journal est passionnant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a aussi la biographie qui a été écrite
par Jean-Pierre Thibaudin.
Par Jean-Pierre Thibaudin.
Absolument,
tout ça est publié,
formidable.
Encore une fois, évidemment, aux éditions Les Solitaires Intempassifs. J'aimerais vous faire écouter d'ailleurs ce que dit Jean-Pierre Thibaudin du rapport qu'entretenait Jean-Luc Lagarce à la mort, d'une part, et puis aussi à la tricherie.
Jean-Luc Lagarce sait que le théâtre a tous les droits, c'est ça qui est beau, c'est que il sait qu'au théâtre on peut faire revenir les morts. Il a lu Genet, hein, il a lu Beckett, où les personnages comme sont souvent comme des morts vivants et tout. C'est quand même des, il part de là, il part de ce théâtre là. On n'est jamais dans la tragédie, on est toujours dans un rapport ironique ou apaisant ou tendre avec la mort.
Quelle est la part fondamentale du mensonge chez Jean-Luc Lagarce?
Alors, il ne parle pas de mensonge, il parle de tricherie. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Parce que tricher, c'est pas vraiment mentir. C'est se mentir à soi-même. C'est quelque chose qui est constant chez lui, c'est-à-dire, tricher, c'est jouer. Donc, jouer, c'est faire du théâtre. Et donc, le rapport du théâtre est fondamental. Et il y a toujours ce jeu-là, tout le temps, comme ça. Et d'ailleurs, les personnages parlent tout le temps de tricher. On va s'arranger avec la vérité. Donc, on s'arrange. Donc, on triche un peu. Mais on ne ment pas. C'est pas vrai. On ment par omission. Mais c'est pas un mensonge, non plus, l'omission. C'est autre chose. C'est une figure plus maligne, plus ironique d'une certaine façon. Et donc on triche avec soi-même, mais tricher, c'est aussi une posture, je dirais. Et Jean-Luc était probablement un grand dandy. Je pense que le dandysme est fondamental chez lui. C'est une sorte de politesse de l'existence.
Et je voudrais rapprocher ce que dit Jean-Pierre Thibaudin de la dimension de la tricherie chez Jean-Luc Lagarce, de quelque chose que vous soulignez, vous, de votre côté, Alexandra Moreira da Silva, au sujet de cet auteur. Vous parlez de son impossibilité de dire son intimité la plus secrète. Et vous dites qu'il vous semble que ça parcourt toute l'œuvre de Jean-Luc Lagarce. Il y aurait, entre la tricherie nécessaire, obligatoire, et qui est aussi une forme d'élégance, et cette impossibilité de dire son intimité, à mon avis, un lien à établir.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pudeur chez Jean-Luc Lagarce lorsqu'on lui demande, par exemple, de parler de son écriture. Dans les textes qu'on retrouve dans « Du luxe et de la puissance », montrent exactement cette pudeur. Un texte, par exemple, comme « Comment j'écris », c'est un texte extraordinaire, où il ne dit jamais comment il écrit, il dit des choses très concrètes et très factuelles, de la machine, l'ordinateur, la lumière, la chambre, la table, mais jamais, jamais il ne rentre dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'intime de l'écriture. C'est plutôt le contexte dans lequel il écrit. Alors, je pense que il y a cette, on retrouve cette même pudeur chez les personnages de Jean-Luc Lagarce. En revanche, même cette pudeur ne les empêche pas d'être dans le jeu en permanence. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que ces personnages qui sont d'une grande banalité, c'est, comme il le dit dans Le Pays lointain, c'est l'homme seul, c'est l'homme sans qualité, c'est un homme tous les hommes. Donc c'est l'humanité. Et donc ça aussi, ça nous rapproche de cet univers-là et de ces personnages-là, parce qu'ils nous ressemblent, oui, terriblement.
Et il leur fait cadeau de ça, il leur fait cadeau de cette possibilité de jouer.
Absolument.
Avec leur propre vie, avec ce qui est leur vie.
Plus. Et je pense qu'il va plus loin. Je pense que ces personnages, ils sont extrêmement humains, justement, parce que dans des moments de grande détresse, ils essayent toujours de renaître de leurs cendres et ils rêvent d'une autre vie. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant. C'est que ça, c'est ce qu'il y a pour moi de plus humain. Rêver d'une autre vie, c'est ce qu'il y a de plus humain. Et de très contemporain aussi. Et par exemple, moi je pense qu'effectivement, comme le dit Jean-Pierre Thibaudat, Jean-Luc Lagarce, il n'écrit pas de tragédie. Il n'écrit pas de tragédie au sens aristotélicien du terme. Mais je pense qu'il fait ses personnages jouer de la tragédie. Par exemple, j'étais dans ma maison, ces cinq femmes, elles auraient tellement aimé être Clytemnestre, être Électre, être Antigone. Lorsque je reviens à la seconde, quand elle dit « Je pensais que la mort de mon frère, la mort du jeune frère allait m'emporter avec lui », c'est Antigone. Lorsque elle raconte cette dispute entre le frère et le père, elle l'appelle le crime. C'est une dispute, c'est d'une grande banalité. Elle l'appelle le crime. Le crime, c'est la faute. Donc, ça nous fait penser à Hippolyte, à Thésée, à Hippolyte, à Oreste, qui est en exil. Donc, c'est comme si tous ces personnages, c'est ça aussi qui est extraordinaire chez Jean-Luc Lagarce, c'est que dans ces textes, on a cette vie quotidienne d'une grande banalité, de l'homme tragique quotidien, on pourrait dire, et contemporain. Et en même temps, nous avons des scènes, des échos, des phrases, des personnages qui, ponctuellement, nous font penser aux grands textes de l'histoire du théâtre, de l'histoire de la littérature, du cinéma. Par exemple, la scène du bal, lorsque la seconde nous parle du bal, nous avons tout de suite le bal, ça peut être Anna Karenine, ça peut être la princesse de Clèves, ça peut être le bal d'Urasien, bien évidemment, mais aussi Cendrillon. Donc, la robe rouge, c'est pareil, la robe rouge, c'est la robe rouge de Madame. Et donc, pour moi, si vous voulez, c'est comme si ces personnages, pour moi, ils sont très touchants parce que ils me prennent par la main et ils m'amènent ailleurs. Ils me font revisiter l'histoire du théâtre et l'histoire de la littérature. Cette idée que ces personnages, ils rêvent toujours d'une autre vie, c'est aussi, pour reprendre ce que vient de dire Jean-Pierre Thibaudat, qu'il a lu Genet, évidemment, mais c'est le rêve des bonnes. Elles auraient tellement voulu aimer être madame. Donc, c'est ce qu'il y a de plus profondément humain. Et donc, ces personnages-là sont très, très attachants, évidemment.
Cette seconde dont vous parlez, dont vous venez de parler à plusieurs reprises, Alexandra Moreira da Silva, est interprétée sur le plateau du Vieux Colombier par Jennifer Decker, si je ne m'abuse, entourée sur scène de Cécile Brune, Clotilde Bézère, Suliane Brahim et Rebecca Marder. Je cite les cinq actrices parce qu'elles sont absolument formidables. C'est une des sœurs, hein, la seconde. Une des sœurs de ce garçon qui est revenu. Et ce qui est formidable aussi, quand on voit la mise en scène de Chloé Dabert au Vieux Colombier, c'est que cette pièce, J'étais dans ma maison, qui a été créée par Stanislas Nordet, et d'ailleurs aussi par Joël Joannou, il y a fort longtemps de ça, cette pièce, on l'entend une fois on y entend certaines choses. On la revoit une deuxième fois mise en scène par quelqu'un d'autre, on voit d'autres choses. Et là, ce qui est très frappant, c'est que, par exemple, c'est Tchekhov qui apparaît. Alors évidemment, le lien Lagarde-Tchekhov, vous n'en avez pas parlé, mais il est très évident aussi. Mais ce qu'on voit au Vieux-Colombier, c'est les trois sœurs. Ce sont les trois sœurs. Donc, il est effectivement comme un creuset à lui tout seul de tout. Tous ces auteurs de théâtre qui l'ont précédé.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'irai encore plus loin. Évidemment, Tchekhov, on peut citer Tchekhov, comme on peut citer La Maison de Bernard d'Alba, évidemment.
Mais comme on peut aussi convoquer Proust dans la façon, effectivement, d'aller sous la surface immobile Absolument. Des choses, voir ce qui se passe dans la vie intérieure des gens.
Tout à fait. Après, il a écrit, et je pense que c'est important, parce que pour moi, la genèse d'une... En tout cas, de J'étais dans ma maison, mais peut-être de toute son œuvre, on la trouve dans les deux premiers textes qu'il a écrits et qui sont inédits. Dans les archives Lagarde-Salimec, et c'est Clytemnestre et Eldise, un texte qui est une adaptation de l'Odyssée. Eldise, c'est un cœur de femme. Et dans ce cœur de femme, on retrouve déjà toute la thématique qu'on va retrouver après dans J'étais dans ma maison, c'est-à-dire le départ, le retour du fils, le retour, l'attente. Et Clytemnestre, justement, c'est un texte qu'il a écrit où il a fait un montage de différents extraits de l'Odyssée et des tragiques grecques, mais... En l'introduction, on peut lire ça dans le cahier, parce qu'il écrivait dans des cahiers à l'époque. Ce n'est pas Clytemnestre qui l'intéresse, la reine de Mycène, c'est Madame Clytemnestre, ses maris, ses enfants, ses douleurs, ses larmes, une nuit. Donc on est toujours dans quelque chose qui nous renvoie à des personnages très quotidiens, d'une grande banalité, qui sont très proches du public, du lecteur, et en même temps il part de la tragédie. Donc c'est ça que je trouve toujours passionnant chez lui.
Oui, donc en conclusion, on peut dire que c'est pas ni un classique ni un contemporain. Jean-Luc Lagarde, il est ni classique ni contemporain, il est d'un présent au fond qui est un présent éternel.
Ces petits luxes providentiels n'ont plus le goût de nos amours bien chambrés. Du grand hôtel vide à la rue, il n'y a qu'un pas. La foule qui me mène à toi a tout l'air d'un faux pas. Le Raphaël seul.
Merci beaucoup, beaucoup à vous, Alexandra Moreira da Silva, d'être passée nous voir dans une saison au théâtre à l'occasion de la création par Chloé Dabert au Vieux Colombier de J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, spectacle qui se joue jusqu'au 4 mars. Je signale aussi que Le Pays lointain, mis en scène par Clément Hervieux-Léger, spectacle créé à Strasbourg au TNS, se promène actuellement en tournée. Il sera présent en avril au Célestin à Lyon et en mai à Caen et Val-de-Reuil.
Au jeu de l'amour, on s'est bien ruiné.
Vous pouvez même, vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Désormais, me laisse sans regret.
Inès Duperron, Emmanuel Morse-Duncan, Vanessa Nadjar, Vincent Deck, Joël Gaillot vous salue bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet.
Le superflu, c'est l'amour, le comprends-tu? C'est la beauté. Ces petits providentiel, non plus le goût de nos amours bien chambrés. Plus tu m'échappes, plus ça me frappe, je retombe amoureux, là presque aussi sec. Font leurs adieux au Raphaël.